Tranche de vie, une émission proposée par JF. De tranches de vie, vous savez tous sans doute que le toit du monde, c'est l'Everest. Mais chaque continent a son toit également. Et le continent africain a un sommet qui domine tous les autres et qui est le mont Kilimandjaro. J'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer une jeune femme qui vient de faire l'ascension du mont Kilimandjaro et qui va nous parler de cette aventure extraordinaire. Edroun, bonjour. Qu'est-ce qui vous a conduit à gravir le Kilimandjaro?
Alors, c'est un peu une histoire d'amitié avec un ami dont c'était le but dans sa vie de monter au Kilimandjaro avant d'avoir 50 ans et avant qu'il n'y ait plus de neige en haut. Et puis, il se trouve qu'il va avoir 50 ans cet été. Donc là, au mois de février, c'était la dernière chance, en fait, pour qu'il réalise son rêve. Et comme il y a 10 ans, on avait décidé de le faire ensemble, eh bien, nous sommes montés ensemble.
Alors là, c'est extraordinaire. C'est l'accomplissement d'un vœu. Est-ce que le choix de ce moment, du mois de février, était bien choisi? C'était le bon moment?
Alors, il paraît que c'est, point de vue climatique, le meilleur moment entre janvier et février pour gravir cette montagne.
C'était votre premier contact avec l'Afrique subsaharienne?
En fait, j'étais allée au Mali, mais de l'Afrique de l'Est, j'étais jamais allée, non.
Alors, comment s'est passée votre ascension? Décrivez-nous un petit peu les étapes de cette ascension.
Alors, c'est une ascension relativement longue, mais on peut la faire plus courte aussi. Nous, on a choisi de la faire en 7 jours par un chemin qui s'appelle la Machame Route, où on a la chance de pouvoir s'acclimater un petit peu à l'altitude, parce que la grosse difficulté de cette montagne, c'est l'altitude. Comme elle est complètement isolée dans la savane, on n'a pas moyen de monter et puis d'attendre quelques jours. Donc en fait, c'est par la route qu'on arrive à s'acclimater. Et donc on faisait des petites ascensions, des petits pics à 4500 ou 4600 mètres pour redescendre à 3000 mètres. Ensuite, pour dormir.
Ah bon, alors c'était cette ascension et puis ces petites descentes étaient destinées à vous acclimater. Mais rappelez-nous l'altitude du mont Kilimandjaro, puisque c'est une chose qu'on aurait dû dire tout de suite.
Alors, le mont Kilimandjaro, il fait 5895 mètres. Voilà.
Donc, on est presque à 6000 mètres. Et vous avez... Quand vous dites que vous avez mis 7 jours, ça veut dire que pendant 7 jours, vous avez fait ces allers-retours?
Alors en fait, on démarre, c'est un parc, une réserve de l'État. Donc en fait, on démarre par des portes, des gates qu'ils ont construites tout autour du Kilimandjaro, d'où partent les différents chemins d'ascension. Et nous, on est parti donc du Machame Gate, qui est à 1800 mètres. Et puis, on a fait différentes étapes. Donc, la première étape était à 3000. Ensuite, on gravit sur un plateau qui est à 3008. Et depuis ce plateau, eh bien, on a moyen de longer le flanc du Kilimandjaro en montant dans des terrains plus où il y a plus de lave et plus de oui, des terrains, enfin, je sais pas, ça passe le long du flanc.
Plus accessible, vous voulez dire?
Oui, plus accessible. En fait, on quitte le plateau pour faire le tour du Kilimandjaro quasiment pour arriver depuis l'autre côté de là d'où on est parti.
Alors, le plateau dont vous parlez, parce que vous avez dit que le Kilimandjaro était une montagne isolée, puisque c'est ce que les géographes appellent un relief postiche, puisque un relief d'origine volcanique. Voilà. Ce plateau, il est à quelle altitude ?
Il est à 3008, entre 3008 et 4002. Mais bon, c'est pas un vrai plateau comme on s'imagine. Il est pas très très grand, mais en fait, c'est un endroit où l'inclinaison est moindre, disons.
Alors, on va partir vraiment de zéro. Alors, vous êtes parti de quel endroit, en voiture, par la route, pour accéder à ce plateau ?
On est parti de la ville de Mochi, qui est à 900 mètres à peu près, et on est monté donc à 1800 mètres au Machame Gate, en voiture, en petit bus. Et là, on a pris un guide, on n'a pas le droit de monter, de faire l'ascension sans guide, et des porteurs, on n'a pas le droit non plus sans porteur. Et c'est très réglementé, il y a une façon de compter le nombre de porteurs qu'il faut par personne, ce qu'ils ont le droit de porter, ce qu'ils doivent porter. Nous, en tant que touristes, on a droit à notre petit sac pour la journée, et tout le reste est pris en charge par des porteurs. Et donc, une fois qu'on quitte cette porte, les porteurs nous accompagnent pendant tout le trajet. Tout est très réglementé, très pesé. Même les déchets, ils ne sont pas déposés dans la montagne. Les porteurs les portent à la descente. Ils sont pesés pour vérifier s'ils ont bien tout ramené.
Et on est dans une zone protégée, mais toute cette réglementation est vraiment respectée et c'est organisé en fonction de la fréquentation touristique qui est importante.
Alors, je ne sais pas si tout est bien respecté, ça j'ai pas contrôlé, mais en tout cas c'est très surveillé, disons ça comme ça. À chaque refuge, enfin c'est pas des refuges, c'est des tentes, à chaque camp où on arrive, il faut s'inscrire en tant que touriste et la fréquentation est relativement élevée. Alors, au mois de février, même si, point de vue climatique, il paraît que c'est la meilleure période pour faire l'ascension, il n'y a pas énormément de monde, mais il paraît qu'au mois de juillet, août, c'est des quantités de touristes impressionnantes qui montent. Maintenant, j'ai pas de chiffres en tête pour dire combien exactement font l'ascension.
Oui, mais alors là, vous êtes en train de enchanter l'entretien, là. Alors ça veut dire qu'il y a plein de monde, comme au Mont Blanc, que les gens se suivent à la queue leu-leu pour gravir le Kilimandjaro.
Alors non, je ne suis pas à la queue leu-leu. Ça, effectivement, moi j'avais un peu peur de ça, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de monde. Alors sur les 6 premiers jours, on ne se suit pas à la queue leu-leu. Le seul moment où vraiment on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde, c'est le jour de l'ascension, du sommet, enfin le dernier jour, parce qu'on part à minuit du camp, donc on part avec la lampe frontale, il fait nuit noire. Et la seule chose qu'on voit sur le flanc de la montagne, donc le petit bout qui reste, il reste 1200 mètres, on voit un long serpentin lumineux gravir la montagne et on se rend compte qu'on n'est vraiment pas tout seul.
1200 mètres de dénivelé, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout que c'est relativement haut, mais on marche. Alors, en Tanzanie, ils disent tout le temps en swahili, ils disent pôle et pôle, ça veut dire doucement, doucement. Et alors, doucement, doucement, c'est vraiment très doucement. Hein. On met vraiment un pied devant l'autre. Et pour faire ces 1200 mètres, on a quand même mis 7 heures.
Alors, très doucement, pourquoi ? Parce que l'ascension devient difficile à cause du terrain ou pour d'autres raisons ?
Non, uniquement à cause de l'altitude. Enfin, le terrain n'est jamais vraiment difficile. Il y a des petits passages d'escalade, mais pas le dernier jour. Et le dernier jour, c'est soit de la falaise de lave, donc relativement friable, soit vraiment du chemin facile.
Ouais. Mais votre ami était un quinquagénaire aguerri ou bien quelle est la limite d'âge à votre avis pour est-ce que vous êtes quand même rompu à ce genre d'excursion on va dire ou d'ascension quelle est la limite vous avez vu des gens vraiment au-delà de 50 ans
oui alors bon déjà mon ami n'avait pas encore 50 ans, mais oui, on a vu des groupes de personnes plus âgées. Il y a même eu un groupe de 4 Français, d'ailleurs. C'était des retraités qui avaient 65 ou 66 ans, en fait, manifestement, qui, depuis des années, rêvaient de faire cette ascension. Et donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge. D'ailleurs, on dit que l'altitude se supporte plus facilement avec l'âge.
Peut-être, mais en tout cas, d'après ce que vous nous dites, les derniers 1200 mètres sont quand même à faire avec précaution. Est-ce que vous avez ressenti vous-même ces inconvénients de l'altitude élevée ?
Alors, c'est assez bizarre pour ma part. Bon, j'ai pas du tout été malade, j'ai pas eu les symptômes qu'on décrit du mal d'altitude, comme le mal de tête, le cœur qui s'accélère, etc. Mais par contre, on peut faire les choses que très lentement. On a l'impression, enfin c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est un peu comme dans du coton, que tout est amorti autour de nous. Et avec cette amie, on se posait des petites équations, des petits problèmes mathématiques. Et 9 fois 4, au bout d'un moment, ça devenait vraiment difficile.
Ah oui. Ah oui, donc toutes les fonctions sont ralenties, y compris les fonctions intellectuelles.
Alors, je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, mais chez nous, c'était vraiment comme ça. Et ce qui nous a le plus épaté, c'est donc ce jour de l'ascension. On part à minuit, on monte jusqu'au sommet à 5900 mètres, et ensuite on redescend au camp d'où on est parti. On fait une pause et puis on continue à descendre encore pendant 4 heures. Donc en tout, ça fait une journée quand même où on marche pendant 16 heures. Et moi, en redescendant, je me suis dit que j'allais mourir, que j'allais jamais y arriver. Et plus on descendait, mieux on se portait. Et le soir, on était en pleine forme. Et ce retour d'oxygène, on a demandé à notre guide s'il connaissait ce phénomène. Il nous a dit qu'effectivement, c'est l'oxygène, quand ça revient dans l'air, ça crée une sorte d'euphorie dans le corps, une sorte d'adrénaline, de décharge que l'on ressent. Et c'est vrai que dans le camp en bas, on descend jusqu'à 3000 mètres ensuite, c'était un peu la liesse générale. Tout le monde était en forme.
Et puis en plus, quand même, il doit y avoir une certaine satisfaction personnelle à avoir accompli cet exploit.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, cette satisfaction, on la ressent qu'une fois arrivé en bas. C'est-à-dire qu'au sommet, on se dit waouh, mais pas plus. C'est un peu.
Il médite.
Ouais, mais sans plus. Enfin bon, évidemment, il y a tous les gens qu'on croise qui disent on vous félicite et nous on félicite les autres, donc tout le monde se félicite, etc. Mais c'est vrai que cette petite euphorie et cette autosatisfaction du oui, j'ai réussi, on le ressent qu'après, après coup, oui.
Mais alors, vous arrivez en haut au terme de cette ascension qui a commencé, cette ultime ascension qui a commencé à minuit. Et vous arrivez en haut, et qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, il y a comme deux étapes à l'arrivée en haut. On arrive donc avec ce serpentin lumineux qu'on suit. On arrive à un point qui s'appelle le Stella Point, qui est en fait le bord du cratère du Kilimandjaro. Et nous, on est arrivé à cet endroit-là pile au moment du lever du jour. Et là, on a une vue assez impressionnant dans le cratère qui est gigantesque, ce cratère du Kilimandjaro. Donc devant nous, il y a ce cratère qui s'ouvre, hein. Et puis le sommet est donc un sommet de cratère, c'est-à-dire qu'après, depuis le Stella Point jusqu'au véritable sommet qu'ils appellent le Uhuru Peak, il reste 120 mètres, je crois, enfin de dénivelé.
Le cratère, le bord du cratère est dissymétrique et vous, voilà. En suivant le bord du cratère, vous arrivez à un point qui est encore plus élevé.
Voilà, c'est ça. Mais on n'arrive même pas à le déceler tout de suite parce qu'en fait, il s'élève doucement et on longe le cratère. En fait, une fois arrivé au Stella Point, après le chemin longe le cratère et puis on arrive effectivement à un point dissymétrique qui est le plus haut en mesure.
Et alors, le cratère en question, il a quelle dimension à peu près est-ce que c'est en kilomètres, le diamètre du cratère?
Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, je me tromperais.
La profondeur, c'est un cratère d'explosion. Est-ce que c'est du volcanisme explosif, là, j'imagine. Donc, c'est très profond.
Il y a bien, je pense qu'il y a facilement 300-400 mètres de dénivelé,
oui.
Même voire plus en fait, entre le bord du cratère et vraiment le fond. D'ailleurs, il y a un chemin qui passe par le cratère en fait, qui longe le glacier, parce que d'un côté on voit le cratère et de l'autre côté on voit le glacier de Furtwängler, qui est un glacier extrêmement impressionnant, qui a une couche de glace de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Là, on en arrive à ce qui fait aussi un des grands intérêts du mont Kilimandjaro, c'est le fait qu'il y reste quand même des accumulations glaciaires qui sont en train de disparaître, mais notre interlocutrice va nous en dire plus.
Alors, c'est un glacier, enfin, il y a plusieurs glaciers, je crois, le long du flanc. Nous, on en a vu un essentiellement qui a des... plusieurs dizaines de mètres de hauteur de glace qui longe le flanc du Kilimandjaro et qui longe ce cratère. C'est très impressionnant, il y a d'énormes crevasses, il y a une couleur de glace très très jolie, très belle. Et puis il fait très froid.
Alors il fait quelle température à peu près ?
Alors le jour où nous on y était, il faisait quand même moins 15 et il y avait un vent froid, très froid.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression de voir un glacier qui est en train de reculer, de disparaître ? Est-ce qu'il y a des accumulations, un peu de moraine ? Est-ce qu'il y a des traces qui montrent que c'est relictuel ?
Alors, nous, on a... Enfin, moi, je ne pourrais pas dire qu'on le voyait de notre point de vue, parce qu'on était... À partir du moment où on a vu le glacier, on était au-dessus du glacier. Et notre chemin ne passait pas au pied du glacier. Donc probablement, si on passe de l'autre côté, on doit voir effectivement des accumulations de moraines et de choses comme ça. Et notre guide, on lui a demandé si lui, il voyait la différence, parce que ça faisait 10 ans qu'il faisait cette ascension, et il disait que c'est plus du tout le même paysage. Donc pour lui, c'est très frappant.
Mais... Il y a une régression observable du glacier avec le recul qu'il a. Alors ça c'est formidable, mais alors ça veut dire que le glacier, enfin ce qui reste de cette calotte glaciaire du Kilimandjaro, ça ne concerne qu'une partie du sommet.
Oui. Oui.
C'est pas sur toute la périphérie du sommet.
Non, c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a jamais marché sur le glacier. Le glacier, il n'arrive pas jusqu'au bord du cratère.
D'accord.
Donc, il longe effectivement le flanc. Et puis, il y a d'autres glaciers sur l'autre flanc. Nous, on n'a vu qu'un flanc, du coup. Mais effectivement, il n'arrive pas jusqu'en haut.
Et alors, qu'est-ce que... Cette calotte glaciaire, est-ce qu'on peut y accéder par d'autres itinéraires ?
Oui, il y a un itinéraire qui passe par le glacier, où on marche carrément sur le glacier. Et c'est cet itinéraire dont je parlais tout à l'heure, où on rentre dans le cratère, on passe une nuit dans le cratère avant de faire l'ascension donc par l'intérieur vers le Uhuru Peak.
Il y a un observatoire en haut, ce volcan est surveillé, est-ce qu'il y a des traces d'activité ?
Alors il n'y a pas de traces d'activité, je pense que ça fait longtemps qu'il est éteint, mais par contre il y a effectivement, il y a tout un système de mesure de l'épaisseur de la glace, de la dureté de la glace à différents endroits. On voit les postes qui ont été installés sur le glacier, ça on le voit depuis le chemin qu'on prend. Alors après, comment les données sont recueillies et où est-ce qu'elles sont fixées, je ne saurais pas le dire, je ne sais pas.
Il y a une observation, d'après ce que vous avez pu voir, de l'activité volcanique, une espèce de monitoring de la vie du volcan.
J'ai rien vu de tel.
Alors maintenant, parlez-nous un petit peu de la vue. On a dérivé vers le glacier. Parlez-nous un peu de ce que vous voyez quand vous êtes arrivé au sommet. Là.
Alors, ce qu'on voit, c'est... On voit l'autre côté de l'image qu'on a du Kilimandjaro quand on est en bas, où on a toujours cette vision de la montagne avec la couronne de nuages, c'est-à-dire qu'on est clairement au-dessus des nuages, et on voit juste une grande étendue nuageuse avec le mont Meru qu'on aperçoit, qui est un peu plus loin.
Qui a une altitude nettement inférieure.
Il fait 4600 mètres, je crois. Enfin, donc quand même nettement inférieur.
Et on aperçoit le sommet qui émerge de la couverture nuageuse, voilà. Laquelle est établie vers 3000 à peu près.
Alors, ça dépend des jours. Chez nous, elle était relativement haute, donc je pense qu'elle devait être autour de 4000, pas très loin de notre camp. On n'a pas eu un très beau ciel le jour de notre ascension. Ah oui, en fait, on était
pas au grand soleil.
C'est comme ça. Hein.
Maintenant, dites-nous un petit peu ce que vous avez vu quand même, parce que cette ascension du Kilimandjaro, elle ne se fait pas uniquement dans un paysage minéral. Il y a une végétation, et jusqu'à quelle altitude et quelle est la nature de cette végétation ? Parle-nous-en un petit peu.
Alors, le premier jour, donc, quand on démarre, donc, à 1008 jusqu'à 2008, 3000, on traverse la forêt équatoriale. Donc là, c'est vraiment une forêt très verte, avec des lianes partout, beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Il fait très chaud, il fait autour de 30 degrés. Donc ça, c'est le premier jour. La nuit, on descend vite parce qu'il gèle. Et ensuite, dès le deuxième jour, la végétation, elle se transforme en une végétation de plantes. Alors, j'ai pas le nom de toutes les plantes en tête, mais c'est des plantes, c'est plus du tout la forêt, mais c'est des plantes de lierre, des plantes de régions humides, en fait, des sortes de bruyères.
Ah oui, ce qu'on appelle les brandes, oui, les bruyères arborescentes.
Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on trouve tout au long du chemin. Et ensuite, on trouve quand même de la végétation jusqu'à des altitudes vers 4400 mètres par là.
Et là, vous avez pu observer ces fameux spécimens de végétation très originaux, là, les sensons, les lobélias.
Voilà.
Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que ça, c'est ce qu'on voit souvent sur des photos et qui est si caractéristique de ces altitudes qui ne sont pas tout à fait sommitales, mais qui sont quand même assez élevées.
Alors, en fait, les plantes sont très grandes. Elles sont beaucoup plus grandes à ce à quoi on s'attend. Et elles sont en fleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de fleurs, beaucoup dans les tons jaunes, violets. Bon, voilà, c'est très, très impressionnant. C'est très joli.
Ce sont des plantes qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît habituellement, ou
non.
Qui ont des formes tout à fait bizarres et qui sont des plantes un petit peu relictuelles aussi, quoi, qui correspondent à des altitudes et à des climats qui ont déjà disparu.
Alors ça ressemble encore, ce à quoi ça ressemblerait le plus de loin, c'est des formes de cactus. C'est vraiment des formes très arrondies, très allongées. Et puis oui, on a un peu l'impression que c'est assez rêche et caoutchouteux de loin, mais en fait c'est assez fin quand on est juste
plantes qui doivent avoir des protections naturelles contre le froid, bien entendu.
Voilà.
Vous redescendez,
ouais.
Euphorique.
Doucement.
Et doucement. Et alors, après la réadaptation aux basses altitudes, elle se fait comment? Facilement?
Ah oui, sans aucun problème. Alors ça, les basses altitudes, il y a aucun problème. C'est vraiment une sorte, une sorte d'arrivée d'adrénaline qui fonctionne.
Est-ce que vous avez eu d'autres expériences similaires? Est-ce que vous avez fait des ascensions particulièrement intéressantes, ou est-ce que vous avez en projet de renouveler cette expérience dans d'autres montagnes, qu'il s'agisse du domaine intertropical ou du domaine tempéré?
Alors, c'était vraiment une expérience unique pour moi. J'ai pas encore fait de choses spectaculaires à ce point. Mais effectivement, j'ai fait d'autres. J'ai fait pas mal de montagnes. D'ailleurs, j'habite en Suisse, donc on se promène beaucoup.
Vous êtes une randonneuse aguerrie, quand même entraînée.
Oui, ça oui. Et puis, on a fait des choses à ski, comme le Dôme des Neiges à des écrins ou des choses comme ça. Mais bon, rien d'aussi spectaculaire que le Kilimandjaro. Mais effectivement, on a d'autres projets. En Équateur ou en Patagonie, où effectivement mon expérience du Kilimandjaro m'a montré qu'il y avait quand même encore beaucoup de coins à découvrir qui ressemblent à rien d'autre de ce qu'on connaît et qui déclenchent des émotions très fortes.
Eh bien, Edroun, je vous souhaite de satisfaire ce vœu et d'arriver à le réaliser le plus tôt possible. Et puis j'espère que vous reviendrez nous raconter à nos auditeurs de Radio Libre en Périgord vos nouvelles expériences d'alpinistes des tropiques.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.